CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau. Monique Couteau, tu vas revenir sur le bilan d'activité du CCAS.
Oui, un petit peu pour nous permettre de compléter, hein, puisque à l'émission dernière, on a parlé de l'enquête Ipsos pour le Secours Populaire et de la perception de la précarité et de l'aggravation de la pauvreté. Et donc, on va voir à travers le bilan d'activité du CCAS, ce qu'il en est sur notre commune.
Et sera suivi de la chronique Bande-annonce avec notre cher Alain Defrémont.
Oui, bonjour à tous. Eh bien, après l'Atrium, on va se déplacer vers le Sel à Sèvres pour la rentrée théâtrale.
Puis, nous recevons avec plaisir Manon Zilberzahn, qui vient nous parler du livre « Vaincre l'obsolescence », co-écrit avec Nathan Hubert.
Tout de suite, la chronique du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Monique, avant de parler du bilan d'activité, peux-tu rappeler ce qu'est le CCAS et quel est son fonctionnement ?
Oui, alors le CCAS, les CCAS ont été créés par la loi du 6 janvier 1986 pour toutes les communes de 1500 habitants et plus. Donc c'est un établissement public qui dispose d'un conseil d'administration, d'un budget propre, principalement financé par une subvention communale. Le président du conseil d'administration du CCAS de Chaville est le maire de Chaville. Le conseil d'administration est composé à part égale de membres élus par le conseil municipal et de membres nommés par le maire. 8 membres élus et 8 membres nommés, donc 16 membres, plus le président. Pour les membres nommés, 4 catégories d'associations doivent obligatoirement être représentées au sein du CA, représentant des personnes retraitées, représentant des personnes en situation de handicap, représentant des personnes bénéficiant d'une mesure de protection et des associations intervenant dans le cadre de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Le conseil d'administration vote les mesures nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de la structure, adoption du budget, définition des prestations servies aux usagers, vote des tarifs, mais aussi, il peut faire le choix de subventionner des mesures nouvelles. En 2023, l'équipe du CCAS de Chaville a connu des mouvements de personnel qui ont pu affecter à certaines périodes son fonctionnement. Et à partir du mois d'octobre, le CCAS a intégré le pôle Solidarité et Santé, regroupant le service Pôle Senior, Santé et le service Logement, ce qui a aussi entraîné un déménagement en octobre. Depuis cette date, le CCAS est au centre des créneaux, au premier étage, juste au-dessus de notre local. Avant de parler de la structuration du CCAS, je veux dire que ce bilan d'activité, il est fait tous les ans sur l'année civile précédente, ce qui nous permet une analyse de l'état social de la commune, de ses évolutions, ce qui est aussi un sérieux indicateur des besoins à satisfaire. Alors la structuration du CCAS, c'est en 3 pôles. Le pôle accueil et administratif, le pôle handicap, le pôle accompagnement social et en tout, il y a 4 agents qui travaillent.
Avant de s'appeler CCAS, il n'y avait pas un autre nom qui commençait par bureau, c'est le bureau de quelque chose, bureau social,
bureau d'aide sociale.
Bureau d'aide sociale, c'est ça. Donc quand tu dis en 86, ça s'appelait déjà CCAS en 86 ou
non, c'est devenu l'appellation.
Voilà, c'est OK. Question suivante, quelles sont les missions du CCAS ?
Elles sont de 2 ordres. Les missions obligatoires, apporter aux habitants de la commune une aide pour l'instruction des dossiers de demande d'aide sociale et la domiciliation des personnes sans domicile fixe. Ça, c'est les missions obligatoires. Et il y a les missions facultatives qui sont laissées au libre choix des communes, comme par exemple des coupons de réduction pour les activités culturelles ou sportives à destination des enfants entre 3 et 17 ans et en fonction des ressources du foyer, ou des coupons loisirs à destination des personnes âgées ou en situation de handicap, pareil sous condition de ressources. Le CCAS avait également mis en place un dispositif de logement passerelle loué à Haute-Seine Habitat, les studios, cette fois, ont été rendus à Hauts-de-Seine Habitat parce qu'il y a réhabilitation des tours du Doisu et que le CCAS doit réfléchir à une autre solution dans un programme neuf. Mais dans les missions facultatives, on peut aussi citer la mise en place de cours de français langues étrangères ou encore différentes activités. En 2023, en tout, 5954 personnes ont été accueillies au CCAS, soit physiquement, soit par téléphone, tout type de demandes confondues.
Et en termes de bilan d'activité, quelles sont les remarques importantes ?
Alors, ce qu'on peut dire en ce qui concerne les aides obligatoires, 38 domiciliations actives au 31 décembre, 20 hommes isolés, 15 femmes isolées avec ou sans enfants. La demande augmente. La domiciliation est la porte d'entrée pour l'accès aux droits civils, civiques ou sociaux, y compris pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'État. L'augmentation des demandes reflète le durcissement des conditions de vie et la précarisation d'un nombre accru de personnes. Le demandeur doit disposer d'un lien avéré avec la commune. La domiciliation est accordée pour une durée d'un an renouvelable. Le titre de transport améthyste forfait annuel mis en place par le département sur certaines conditions de ressources pour les plus de 65 ans ou 60 ans, si situation de handicap, pour un accès illimité au transport sur l'ensemble du réseau RATP de Paris et banlieue, 761 demandes en 2023, plus 9% par rapport à 2021.
Alors, en ce qui concerne les missions facultatives ou le travail d'accompagnement social ?
C'est effectivement le gros des rendez-vous. Le gros des rendez-vous concerne l'accompagnement social, c'est-à-dire évaluation des problèmes, information, orientation, aide à la résolution, instruction de dossiers de demande d'aide financière, aide sociale à l'enfance. Dans ce cadre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a plus de femmes qui sont reçues. Elles sont environ 75% sur l'ensemble des personnes reçues. Les tranches d'âge les plus reçues sont celles entre 30 et 50 ans. Les personnes les plus accompagnées par le CCAS sont des personnes seules ou des familles monoparentales, peu de revenus, précarité ou baisse des revenus qui engendrent les difficultés à assumer les charges courantes. Et ce qu'il faut absolument noter, c'est que la majorité de ces personnes sont en activité, des temps partiels, des CDT, etc. La majorité des personnes reçues sont logées majoritairement dans le parc social. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour tenter de répondre au mieux aux problèmes rencontrés. Service social scolaire, prévention et protection, fonds d'aide chavillois qui accorde des aides financières. Les aides les plus sollicitées en 2023 sont des aides pour les factures d'énergie, des aides pour les loyers, des aides alimentaires et des aides en numéraire. Pour ces dernières en augmentation, il s'agit souvent de ruptures inopinées des droits par certains organismes comme la CAF ou Pôle emploi, ou alors de délais de traitement de l'ouverture des droits de plus en plus longs. Et ces aides sont accordées après un rendez-vous avec l'assistante sociale ou après une orientation venant d'un autre organisme. En 2023, 68 dossiers ont été présentés au Fonds d'aide chavillois. 29 000 euros d'aide ont été accordés. Mais nous savons bien que toutes les personnes en difficulté sur la commune ne viennent pas forcément au CCAS demander de l'aide.
Y a-t-il quelque chose de particulier en ce qui concerne le logement ?
Oui, alors nous, dans une prochaine émission, nous ferons un rapport sur le bilan du service logement, en ce qui concerne le logement social, puisque lui aussi, il est annuel. Mais effectivement, pour le logement en général, il y a le Fonds de solidarité pour le logement, qu'on appelle FSL, qui est une aide proposée par le département. Ce dispositif est destiné à aider les ménages ayant de faibles ressources et rencontrant des difficultés liées au logement. Il existe trois sortes de FSL. Le FSL accès pour la prise en charge de dépôt de garantie et ou l'achat d'électroménagers de première nécessité. Le FSL maintien pour la prise en charge de dettes locatives. Le FSL fluide pour la prise en charge de dettes d'énergie, d'eau, de téléphone. Alors le FSL est basé sur le quotient familial de la CAF. Le CCAS adhère annuellement au FSL en versant une contribution financière. Les résultats pour 2023, 4 FSL accès ont été attribués, 11 FSL maintien et 11 et faisselle fluide. Trois dossiers ont été refusés. Ceci dit, on rencontre des difficultés parce qu'une fois qu'on a eu affaire au FSL, on ne peut plus y avoir droit pendant 3 ans. Ce qui fait que parfois, on préfère accorder une aide du FAC sur une somme, une petite somme, pour ne pas oblitérer la possibilité, en cas de problème plus important, d'avoir ensuite accès au FSL. Voilà ce qu'on peut dire pour cette année.
Merci beaucoup Monique Couteau. Il est donc important de bien connaître les droits et les aides qui peuvent être obtenus localement ou départementalement. Les associations de solidarité, en plus du CCAS, peuvent aussi vous y aider. Nos élus aussi, n'hésitez pas à prendre contact et à faire circuler les informations autour de vous. Cette chronique, après celle de l'émission précédente sur l'enquête Ipsos Secours Populaire, montre bien l'augmentation de la précarité d'une partie de nos concitoyens, quel que soit le type de territoire. Et le phénomène de travailleurs pauvres qui pose bien le problème des salaires. Bien loin du discours trop entendu sur la méritocratie et les assistés. Merci beaucoup Monique. On passe tout de suite à la chronique bande-annonce.
Bande-annonce avec Alain de Frémont.
Bonjour à tous, bonjour Monique, bonjour Jonathan. Alors donc après l'Atrium, nous irons en mois d'octobre au Sel, à Sèvres, pour voir le spectacle de Caroline Vigneault. C'est le 2 octobre, donc à 20h45. Caroline Vigneault nous invite à son nouveau spectacle qui s'intitule In Vigno Veritas. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, voici un court extrait de sa biographie. Caroline a 10 ans, issue de la petite bourgeoisie provinciale, elle est trop. Trop bruyante, trop remuante, trop volubile pour ce milieu paisible où le silence est d'or. Elle s'essaye à l'équitation sur un vieux percheron, sauvé de la boucherie par son club, et finit une fois par mois à l'hôpital. Elle apprend le piano sans trop y croire. Et puis elle découvre Jacqueline Maillan dans la pièce Croque-Monsieur. C'est une révélation. Elle est désormais convaincue que le rire est également un droit pour les femmes et qu'on peut faire de son exubérance un métier. Cette presque quinquagénaire d'origine nantaise a poursuivi ses études à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où elle décroche une licence de droit et un master assurance et responsabilité civile. Elle décide de passer l'examen d'entrée à l'école de formation du barreau pour exercer la profession d'avocate. Elle obtient en 2000 le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, prête serment et devient membre du barreau de Paris. Elle s'inscrit alors à une troupe de théâtre de l'Union des jeunes avocats en 2001, une troupe qui écrit des sketchs sur la vie du barreau à Paris. Dans son spectacle en 2018, intitulé « Caroline quitte la robe », elle joue sur les mots et apparaît toute nue sur l'affiche. Dans son nouveau spectacle, Caroline est à la moitié de sa vie, pile, dit-elle, entre les jeunes et les vieux. Elle a un compte TikTok, mais elle paie quelqu'un pour s'en occuper parce qu'elle n'y comprend rien. Pour illustrer son âge, elle dit qu'elle a fini de grimper en haut de la montagne et elle admire la vue avant d'entamer la redescente. Et du sommet de sa vie, elle est bien décidée à dire enfin la vérité, toute la vérité, mais pas que la vérité. Sur quoi ? Sur la légalisation de la drogue dure dans les EHPAD, sur les masculinistes, car oui, elle en a trouvé, et sur les limites du féminisme, sur les dangers du porno et des cornflakes chez les jeunes, sur les problématiques de genre et de dysfonctionnement érectile chez les moins jeunes, sur la culture woke, sur son angoisse de l'intelligence artificielle, et évidemment sur son aventure avec Brad Pitt. Vous voyez, c'est un one-man show très enlevé qui vous attend le mercredi 2 octobre à 20h45 au Sel à Sèvres. Et le lendemain, beaucoup plus sérieux, le jeudi 3 octobre, donc, dans le cadre du Forum des Savoirs, vous pourrez aller à la rencontre de André Caspi, professeur émérite de l'histoire des États-Unis à la Sorbonne. Il nous propose une lecture électorale qui se jouera aux États-Unis en novembre 2024. C'est à l'Atrium de Chaville, le jeudi 3 octobre à 20h30 et l'entrée en est gratuite.
Merci beaucoup Alain de Frémont pour ce petit tour d'horizon culturel. On passe tout de suite à la chronique à portée de parole.
Oui, je voulais dire, bien sûr, c'est à portée de parole, mais aussi à portée de bouquin, puisqu'on a sous les yeux le livre de Nathan et de Mano, « Vaincre l'obsolescence, mode d'emploi ».
À portée de parole avec Diane Lafranc.
Mano, est-ce que tu peux nous présenter votre duo et comment vous en êtes venu à faire ce travail et à réaliser cet excellent livre ?
Qu'on a tous lu. Hein.
Bien sûr, donc moi c'est Mano, j'ai coécrit avec Nathan Hubert ce livre qui s'appelle « Vaincre l'obsolescence, mode d'emploi ». En fait, on s'est rassemblés autour d'un projet contre l'obsolescence il y a maintenant 2 ans. Le projet Nobsolète, l'idée c'était de tout faire pour rendre le monde plus durable. En fait, on a eu beaucoup d'expérience en tant que réparateur, mais aussi en tant que designer industriel, donc sur de la conception de produits. Et on a eu beaucoup de feedback, hein, je pense aussi à nos activités en tant que réparateur dans des hypercafés, où on voit vraiment les gens qui sont frustrés de tous ces objets qu'ils lâchent. On s'est dit qu'on allait... condenser tous ces retours, toute cette expérience dans un livre qui s'appelle donc « Vaincre l'obsolescence » et dans lequel on revient un peu sur l'histoire des objets et surtout on montre comment les garder plus longtemps.
Alors, avant de voir peut-être comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que tu peux définir ce qu'est l'obsolescence, ses différentes formes ?
Oui. Quand on entend parler d'obsolescence, on pense souvent à l'obsolescence programmée, hein, qui serait cette sorte de complot industriel... où tous les fabricants feraient en sorte que les objets durent moins longtemps pour pousser les consommations. C'est quelque chose qui a existé à travers l'histoire, c'est quelque chose qui existe. Mais ce qu'on défend dans le livre, c'est qu'il y a plusieurs formes d'obsolescence. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on jette nos objets. Donc je pense à l'obsolescence programmée, mais aussi à l'obsolescence technique. Typiquement, le fait qu'on remplace un objet parce qu'il y a une version techniquement plus avancée qui existe. C'est beaucoup le cas sur les téléphones, par exemple. Je pense aussi à l'obsolescence perçue, qui découle des effets de mode, du marketing, etc. En fait, il y a plein de raisons qui font qu'on remplace nos objets. Et la bonne nouvelle, finalement, c'est qu'on peut aussi, en tant que simple consommateur, en tant que citoyen, en fait, agir sur l'obsolescence pour garder ses objets plus longtemps.
Absolument. Alors, donc, différentes formes d'obsolescence, mais finalement, comment on en est arrivé là ? Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, qu'on réparait beaucoup de choses à la maison. On ne jetait pas. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Il y a une grande évolution dans l'histoire. Hein. Si on revient au tout début de l'humanité...
Je n'étais pas née. Je n'étais pas encore née et je n'ai pas connu les dinosaures.
J'ai
merci.
Connu la mère Denis. Hein.
En fait, c'est intéressant parce que le rapport aux objets est resté permanent pendant des millénaires, hein, littéralement. En gros, c'était des objets qu'on chérissait, qu'on entretenait, qu'on gardait, qu'on fabriquait aussi soi-même en une grande quantité. On se souvient tous un peu des meubles qu'on a hérités de nos arrière-grands-parents qui eux-mêmes héritaient ces meubles-là de leurs propres arrière-grands-parents. Et finalement, il y a une vraie bascule qui a été effectuée pendant le XXe siècle, au lendemain de l'industrialisation de tous les objets, en fait. C'est pas tant que l'industrialisation était forcément mauvaise, mais en tout cas, ça démocratisait beaucoup les objets, donc il y a eu des effets positifs. Il y a aussi eu des effets négatifs. En tout cas, les cycles de vie se sont raccourcis. On a aussi eu tout simplement beaucoup plus d'objets. Et on a vraiment basculé vers une culture du jetable, hein, avec des objets, je pense aux stylos, je pense aux briquets, qui avant étaient rechargés, soignés, réutilisés, qui sont devenus donc jetables, qu'on utilise 1, 2 fois, 3 fois, et puis qu'on remplace.
C'est la pleine explosion de la société de consommation après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 55, 60 et compagnie, où là, effectivement, on est entré, je pense...
70, enfin, avec l'arrivée des hypermarchés.
C'est ça.
Absolument, et il y a une... Il y a aussi, c'est aussi suite un peu à l'américanisation de nos sociétés que ça s'est produit. Hein. On connaît un peu l'histoire de General Motors qui faisait des carrosseries toujours plus chromées, toujours plus brillantes pour vendre la génération d'après, alors que sous la carrosserie, c'était grosso modo le même châssis de voiture. Et il y a un peu ces paradigmes-là de conception, de design industriel qui sont répandus, qui ont fait qu'on concevait pour vendre plus. Et ça a été appliqué à plusieurs domaines ensuite, ouais.
Et alors, bon, nous, consommateurs éclairés, que pouvons-nous faire ?
Alors, acheter le livre d'abord.
Ça, acheter le livre.
La première étape, effectivement, c'est de comprendre tous les enjeux. Il n'y a pas juste ce livre, hein, mais il y a plusieurs façons de s'informer. Mais comprendre vraiment les enjeux, aussi comprendre où est-ce qu'on peut avoir de l'impact C'est pas toujours très intuitif, hein. Quand on regarde les analyses de cycle de vie, qui sont ces études où on vient mesurer l'impact des cycles de vie des objets, on se rend compte que c'est pas toujours intuitif, que par exemple les sacs en coton, les fameux tote bags qui pendant longtemps étaient prisés comme étant quelque chose d'écolo, ne sont pas tant que ça.
Oh, c'est devenu des goodies de toutes les entreprises maintenant.
Exactement. Et en fait, faut les réutiliser plusieurs centaines, voilà, voire milliers de fois avant que ça vaille le coup d'un point de vue environnemental par rapport à des bons vieux, j'ai envie de dire, sacs plastiques en PET. Donc voilà, c'est pas toujours très intuitif. Donc première étape, déjà s'informer. Mais ensuite, sur son parc d'objets existants, il y a déjà agir en amont, c'est-à-dire faire l'entretien des objets, les soigner, un peu agir avec ces objets comme si c'était des animaux de compagnie, c'est-à-dire voilà, vraiment penser sur l'électroménager, c'est flagrant, hein. Il y a un appareil sur deux ramené au SAV qui l'est par manque d'entretien. Donc voilà, faire ce travail en amont, et puis en aval, si un jour il y a une panne, si un jour quelque chose ça se casse, évidemment réparer ou faire réparer. On a pas mal d'aides étatiques qui ont émergé, ouais. Je pense au bonus réparation qui permet de voilà, économiser quelques dizaines d'euros, voire une cinquantaine sur une télévision, par exemple.
40 euros sur un aspirateur, je viens de le faire.
C'est bien. Bah, voilà, c'est, typiquement, ça, c'est hyper important. Et puis, si toutes ces choses ne marchent pas, lorsqu'il s'agit de remplacer, faire les bons choix. Donc, choisir, si possible, du Made in France et penser aussi à la réparabilité. Voir par exemple s'il y a des vis, faire attention à l'indice de réparabilité aussi qui existe maintenant sur 8 catégories d'appareils électroménagers. Et donc de cette manière là en fait, la recommandation générale, hein, c'est de s'investir plus dans ces objets, mais en suivant ces étapes là on peut vraiment les garder plus longtemps et ainsi contribuer à rendre le monde plus durable.
Dans votre livre vous donnez aussi quelques recettes simples pour l'entretien. Mmh. Hein, l'entretien de sa bouilloire par exemple, donc des recettes simples avec du vinaigre blanc, hein, c'est ça?
Exactement, ouais. On a essayé de faire un guide pratique qui est illustré aussi d'ailleurs, on a tenu à vraiment mettre ces illustrations pour rendre ça aussi didactique que possible. Et typiquement oui, les bouilloires, c'est une étape très simple, on n'y pense pas, mais si on oublie de la détartrer, et Dieu sait que dans le bassin parisien l'eau est assez calcaire, donc en fait ça finit par s'accumuler, la résistance travaille plus et ça fait surchauffer composants, ce qui in fine fait
péter la bouilloire.
Donc c'est vraiment important d'agir en amont.
Vous avez aussi conçu un outil qu'on peut je crois aimanter sur les frigos pour justement accompagner le on va dire le planning d'entretien de ces objets de ces électroménagers qu'on retrouve dans nos cuisines la plupart du temps. Est-ce qu'on peut le retrouver avec le livre quand on l'achète? Comment ça se passe?
Oui, en fait, ce livre a été l'objet d'une campagne Ulule avec des précommandes. Donc, à l'époque, on avait proposé ce calendrier de la durabilité qu'on a donc effectivement commercialisé. Il est disponible maintenant sur notre site, nobsolete.fr. En fait, l'idée, c'est effectivement qu'en parlant avec des gens, on s'est rendu compte que beaucoup connaissaient les étapes d'entretien à faire, mais peu le faisaient vraiment. Et donc, on a conçu, nous, en tant que designer, ce petit objet qui est un outil, effectivement, pour penser, pour planifier ces opérations d'entretien. Et en fait, on vient déplacer des pastilles, voilà. Pour une bouilloire, typiquement, c'est tous les deux mois. Et de manière à y penser. Et d'ailleurs, il est made in France chez des petites entreprises françaises qui font attention.
Pour nous donner un exemple concret, justement, tu nous parlais du grille-pain. Tu avais quelques chiffres comme ça concrètement sur un objet, le grille-pain.
Le grille-pain,
qu'on a un peu tous chez nous.
Le grille-pain, c'est intéressant. Quasiment tout le monde a un grille-pain. Et si on regarde les pannes sur les grille-pains, dans plus de deux tiers des cas, en fait, c'est juste des miettes qui se sont accumulées dans le grille-pain. Donc ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on l'utilise, les miettes s'accumulent, sauf que lorsqu'on réutilise le grille-pain ensuite, elles se carbonisent, et le charbon, ça conduit l'électricité. Donc on finit par court-circuiter son grille-pain ainsi, et en fait c'est très simple d'éviter ces pannes-là, puisqu'il suffit de retourner le grille-pain, secouer un peu, enfin de vider les miettes en fait. Les fabricants ont aussi la bonne idée de mettre un tiroir à miettes, et il faut s'en servir. Donc c'est un bon exemple qui montre que oui, les consommateurs aussi ont un rôle à jouer. On a aussi notre part en tant que citoyen pour garder ces objets plus longtemps.
Tu disais tout à l'heure, on a découvert pendant ta présentation que tu étais donc designer, que ton collègue aussi Nathan est designer, et en même temps tu as un peu remis en cause la pratique de designer à une certaine époque, puisqu'ils, vraisemblablement, ils ont participé aussi à ces conceptions un peu au-delà de l'usage, au-delà de la fonction, au-delà de l'esthétique. Ils y ont rentré une dimension marketing, parce que c'est l'obsolescence programmée, pour moi, c'est plus du marketing d'abord, c'est une demande du marketing. Et aujourd'hui, on a des designers de plus en plus comme toi qui font qui prennent un peu leur revanche et qui justement vont à contresens. Est-ce que il y en a beaucoup pour toi des designers qui ont cette démarche là est-ce qu'il y en a assez parce qu'on voit que ça a évolué finalement?
Ça a commencé dans les années 70 avec Victor Papanek, j'ai envie de dire. Les premiers designers vraiment engagés, c'est vrai que pendant les années 50 c'était beaucoup
Raymond Lévy
vraiment l'éloge du beau, du marketing, voilà. faire des choses qui se vendent bien puis dans les années 70 donc il y a eu les premiers designers engagés qui ont commencé à faire des choses plus sensées, à mon sens plus utiles, et puis aujourd'hui oui il y a plein de gens qui œuvrent pour un monde plus réparable, plus durable. Il y a des entreprises comme Fairphone qui font des téléphones réparables et mieux sourcés. Framework qui fait l'équivalent sur les ordinateurs. Et puis si on regarde là tu parlais de designer, je pense en France à Geoffroy Hulot qui est derrière l'entreprise De Glace, qui travaille sur des ordinateurs plus modulaires, plus réparables.
Comme Fairphone finalement, c'est ça?
C'est un peu pareil mais appliqué effectivement à un aspirateur.
Tu peux expliquer rapidement pour nos auditeurs, auditrices, Fairphone?
Fairphone c'est un téléphone, ils sont à leur troisième ou quatrième modèle. Qui est fait pour être réparé par l'utilisateur, et ils sourcent aussi l'or de manière plus responsable. On sait qu'il y a beaucoup de métaux, je pense au cobalt notamment dans les batteries, qui est source de conflits très importants. Et donc eux, ils font en sorte de mieux sourcer les matériaux et surtout de le rendre plus réparable, plus durable. Et on peut en fait avec trois vis remplacer son module photo, son écran, etc. Et donc voilà, aujourd'hui on assiste à ça, on assiste aussi à des nouveaux business models qui sont plus axés sur une économie de la fonctionnalité, un peu moins sur de la vente pure et classique.
Est-ce que vous avez de nouveaux projets en ce moment?
Oui, nous on travaille...
C'est peut-être top secret, hein.
On travaille effectivement avec Nopsoled, donc on a plein d'activités. Hein. On a une activité de blog où on donne des conseils sur la durabilité. Adressé aux consommateurs, sur l'entretien aussi, sur comment faire de meilleurs choix. On a donc ce livre qui vient cristalliser toutes nos clés pour un monde plus durable. On a aussi des outils comme le calendrier de la durabilité qui permettent de garder ces objets plus longtemps. Et nous, on travaille aussi depuis des mois, là, on s'est replongé sur un appareil réellement durable. Donc on va essayer de s'inscrire effectivement dans cette lignée de nouveaux produits plus durables parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On pense que les objets aujourd'hui sont pas conçus avec une grande durée de vie... Enfin, ils ne sont pas conçus pour tenir longtemps. Et donc, on travaille sur un produit. C'est un peu tôt pour
en parler plus. C'est top secret pour l'instant.
Mais si vous êtes intéressé, on communiquera bientôt dessus sur notre Instagram et sur notre site.
Merci beaucoup, Mano. Je rappelle que vous êtes donc designer avec votre collègue Nathan Hubert. Et vous avez écrit le livre « Vaincre l'obsolescence, mode d'emploi » aux éditions Tana. Vous l'avez notamment en vente à la librairie de la Pointe de Chaville pour un tarif de 14,90€. Ou sur le site nopsolette.fr. Vous pouvez aussi suivre les aventures de ce binôme sur Instagram. Merci beaucoup à tous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain, 8h. À bientôt. C'était Jonathan de Nuit.